Alors, bon, c'est compliqué, hein, le capital actionnarial, parce que le drame, c'est que le capital actionnarial se nourrit des épargnes des salariés, ce qui est une espèce de tragédie. C'est l'épargne des salariés, hein, qui s'investit dans les actions, etc. Donc, la perversité ultime de ce système, c'est que les salariés s'asservissent à leurs propres frais. Mais bon, il y aurait à dire là-dessus. Et SLAM, c'était aussi un acronyme qui voulait dire Shareholder Limited Authorized Margin, ce qui en bon français veut dire marge actionnariale limite autorisée. Et le but de la manœuvre, c'est de définir pour le capital actionnarial un taux de rentabilité maximal, inspiré d'ailleurs de ce que je disais sur ce que peut être et ce que doit être le taux considéré comme normal de rémunération du capital, c'est-à-dire revenir dans l'orbite du taux d'intérêt à une prime de risque près, donc quelques pourcents seulement. Et pas les 20% des entreprises du CAC 40. Définir un taux de rentabilité actionnariale maximal au-dessus duquel un prélèvement fiscal écrète et prend tout. Alors, c'est pas une mesure fiscale en soi. C'est pas un truc pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État.
Et c'est une façon de désarmer les marchés financiers.
C'est exactement ça. C'est une façon de cisailler à la racine toutes les incitations du capital actionnarial à pressurer toujours davantage et sans limite les entreprises, puisque le mot d'ordre implicite qui est porté par le SLAM, c'est si vous continuez de serrer les croupes, peut-être vous ferez dégorger l'entreprise un peu plus, mais on vous prendra tout. Donc c'est même pas la peine d'y penser. Renoncez simplement. Alors, c'est une mesure qui a... Il y a plein d'objections qui naissent immédiatement contre cette mesure. Vous allez faire partir les capitaux, vous allez faire partir des entreprises, etc. J'ai des objections aux objections. Bon, là aussi, je renvoie à des choses écrites. Hein. Dans le livre que vous avez eu la gentillesse de citer, il y a une annexe, il y a un chapitre sur le SLAM, et il y a une annexe qui est consacrée à la présentation de ces objections aux objections. Bon, voilà. Donc, mais c'est un débat qui est en cours. J'aimais l'idée, elle est sans doute imparfaite, elle nécessite du travail, qu'on le fasse et qu'on s'y mette. Voilà, c'est tout.
Et concernant la concurrence?
Alors, concernant la concurrence...
Comment on fait pour limiter la concurrence? Là, on en revient au G20, on en revient quoi? À l'OMC? À qui on fait confiance? Où est-ce qu'on fait du protectionnisme? Qu'est-ce qu'on fait?
Alors, moi, je suis...
À l'échelle mondiale, ouais. À l'échelle régionale?
Alors, moi, je ne suis pas un expert en commerce international et je n'ai pris la parole sur ce sujet que pour signaler au moins une chose qui est une espèce de piège de langage, pour ne pas dire de piège logique, qui tourne autour de ce débat sur le protectionnisme, dont on fait quand même le motif de diabolisation numéro un, je veux dire, mais enfin, très honnêtement, hein, dans le débat public, pire que protectionniste, il y a pédophile, quoi, je veux dire, enfin, vraiment, immédiatement, enfin, moi, j'ai le souvenir d'avoir entendu, je sais plus qui, ça devait être Emmanuel Todd, hein, ou... Je sais plus si c'était la matinale d'Inter ou de France Culture. Et bon, on lui dit, mais quand même, vous n'êtes pas protectionniste, non? Je veux dire, c'est quand même le comble de l'horreur. Et là contre, je voudrais faire observer une chose tout à fait élémentaire. C'est que ce débat sur les protectionnismes, qui tourne autour de la notion de concurrence libre et non faussée, celle des traités européens, la concurrence non distordue.
Nous y revoilà.
À ceci d'extraordinaire qu'en se focalisant sur les distorsions proprement commerciales, les distorsions dans les marchés, elles occultent systématiquement toutes les distorsions d'autre nature, comme les distorsions structurelles, socioproductives, monétaires, qui constituent toutes les protections de fait. Je demande, lorsque la livre est dévaluée en quelques semaines de 30% par rapport à l'euro, est-ce que ceci n'est pas une distorsion? Lorsque le salarié chinois est payé 150 euros par mois, ou lorsque le salarié, prenons au cœur de l'Europe, l'élite salariale en Roumanie et chez Dacia est payé 300 à 400 euros par mois, est-ce que ce n'est pas une distorsion? Lorsque la Pologne refuse, et en même temps on peut la comprendre, de prendre en charge les coûts environnementaux, est-ce que ce n'est pas une distorsion? Lorsque le Vietnam refuse de prendre en charge les coûts d'un système de santé, est-ce que ce n'est pas une distorsion? Lorsque vous avez candidat, alors au cœur de l'Europe, l'Estonie, candidat à l'entrée dans l'Europe, la Macédoine, qui font leur pub institutionnelle sur CNN ou sur les chaînes boursières américaines sur le thème « L'époque est à la réduction des coûts, venez chez nous, 0% d'impôts sur les bénéfices réinvestis ». Est-ce que ce n'est pas de la distorsion? Oui, ce sont des distorsions. Et les distorsions, pour ceux qui sont du bon côté, ce sont des protections. Ma conclusion paradoxale est donc que la concurrence libre et non distordue au sens où l'entendent les traités européens, c'est ça le protectionnisme. Dans un monde de différences, il y a nécessairement des distorsions. Les économies sont différentes, elles sont structurellement différentes.